la musique alternative sur Radio G 101.5 FM. Into the Pit.
Bonsoir. Bienvenue dans Into the Pit spécial Halloween. Il est 21h, les ténèbres tombent. Ce soir, métal, chaos et ombres sonores vous attendent. Montez le son et entrez dans la fosse. Ce soir, les ondes s'invitent sur les ondes. Préparez-vous pour une émission spéciale où l'horreur, la folie et l'art s'entrelacent. On va plonger dans un univers dément de Rob Zombie, explorer le côté sombre du cinéma et de la littérature et oser invoquer les ténèbres indicibles de Cthulhu. Bon résumé.
Très très bien.
Avec parfait. Quelques erreurs.
Non. Très bonne prononciation de Cthulhu.
Et pour plonger dans l'univers dément de Rob Zombie, ouais. C'est parce que je pense que je l'ai un peu mal dit, bon bref. On est tout excité à l'idée de d'animer cette émission, ouais. C'est cool. Alors on a mis le paquet avec des petits effets en arrière.
Là, vous êtes pas prêts, hein, avec tous ces effets sonores.
En arrière fond, c'est
Vampiria.
Vampiria.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vampiria.
De Moonspell, bon groupe de metal goth portugais. Donc voilà.
Justement, ça peut faire un petit lien avec le festival qu'on a vécu.
C'est vrai.
Oui. En quelques mots.
L'unique Dark Fest.
Hein, ouais, carrément. Ouais. On a pu voir pas mal d'artistes. On a pu voir
Ashton Knight.
Ouais.
Et The Awakening. Vous avez certainement pu, pour ceux qui suivent la page Insta, voir un petit peu les live reports. On a vu We've Been There Before de l'angevin Guillaume Loubier. Et un duo électro, Lunar Lock, aussi en juin.
Ouais, ça j'ai vraiment adoré le Lunar, le premier groupe juste avant The Awakening.
Oui, c'était une chouette découverte, même pour vous qui ne connaissez pas trop The Awakening. Tout le monde a adoré, quoi. On avait pas mal de potes, etc.
Ben ouais,
et le gros Léon a dit sur le chat. Vampiria.
Ah, un connaisseur.
Alors, faut que je sache. Ouais.
Au passage, on parlait du Geek Dark Fest. J'aimerais vraiment remercier toutes les belles personnes qu'on a pu rencontrer lors de ce festival. Que ce soit Étienne, Jack, Daniel, plein de gens. J'oublie certainement des personnes, mais vraiment, on avait tous
Ashton
un point
Knight
commun.
Aussi, c'était une belle rencontre.
J'ai hâte de pouvoir diffuser son interview. Oui, on a rencontré que des gens avec des belles âmes, des belles ondes, du charisme et beaucoup de gentillesse. Donc, c'est rare que les deux soient associés. Merci beaucoup si vous nous écoutez et merci beaucoup tout court, même si vous ne nous écoutez pas. C'était vraiment formidable de vous rencontrer et de passer tout ce temps avec vous. Voilà.
Et ben voilà. Et donc, du coup, qui se lance pour la première... Première chanson ?
Eh bien, je veux bien en tout cas.
Ah, c'est parti.
Justement, c'est tout récent. C'est sorti ce vendredi 31 octobre. Et je vais vous présenter une collaboration des plus surprenantes. Mm-hmm. Donc, d'un côté, nous avons un groupe de noise, un peu doux mais légèrement hardcore, qui est assez récent sur la scène métal et qui s'appelle Chatpile.
Ok, je connais.
Aussi, qui est passé au Hellfest. Ouais. Et de l'autre côté, nous avons... Aiden Pedigo, excellent guitariste de country et de blues.
Ah, ça me double les oreilles. On parle de country, de blues, ça me plaît.
Et voilà, c'est pour ça que je voulais aussi te faire écouter cette collaboration. Et justement, comment une telle rencontre s'est produite ? Eh bien, c'est très simple. Aiden Pedigo a rencontré Steen, le bassiste de Chatpile, durant un concert à Oklahoma.
Okay.
Et ils ont commencé à traîner ensemble et ça a super bien marché. Et du coup, l'album s'est très rapidement fait. Et justement, écoutez l'album In the Earth Again, car c'est vraiment très intéressant, cette association. Et voici un extrait avec le morceau Never Say Die. Bonne écoute.
Merci. We'll be right back.
Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM, et c'était le morceau Never Say Die de Chad Peel avec Aiden Pedigo.
C'était cool.
Bien lourd, très lourd. C'était pesant, une bonne ambiance bien pesante. Mais ouais.
Et pourtant, sur ce morceau, la guitare, elle est complètement différente de ce que fait Chad Peel normalement. Mm-hmm. Parce qu'avec justement cette collaboration. Donc, c'est assez réussi, je trouve, ces deux projets très différents. Mais justement, est-ce que ça va nécessairement faire plaire aux fans des deux camps?
Mais ça, il faudrait en parler aux fans des deux camps. Nous, c'est vrai que tu nous fais découvrir, donc c'est assez cool. Mais c'est toujours le souci que l'on a. Est-ce que c'est de tel groupe? Est-ce que c'est du groupe à groupe, etc. Ils ont changé, ils ont trop changé, ils ont pas assez changé. Et les fans, en tant que, enfin, on est souvent chiant. C'est toujours trop, pas assez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, un peu. Mais moi, je suis pas fan de nature. J'aime
non,
bien
mais même
tout.
Quand on est passionné, quand ouais, on est, tu vois, d'un artiste.
Ouais, moi, j'ai du mal. Enfin, je le suis pas forcément. Donc, je trouve que c'est cool quand un artiste se renouvelle, propose des choses différentes. Et là, pour le coup, mais je peux comprendre cet esprit fan qui a envie de garder la nature première de ce qu'il a aimé dans.
On peut garder notre nature première tout en évoluant, c'est pas le.
C'est clair. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça bouge.
Mais des fois, on en parle de certains artistes, de certains réalisateurs, réalisatrices, se dire parce que aussi, voilà, on évolue aussi de notre côté, peut-être se dire que bon bah là, c'est différent, mais c'est cool. Moi, je préfère quand c'est un artiste qui se mouille,
ouais, carrément,
qui change, qui essaye, que rester sur la même chose quoi.
Parfois, il faut peut-être faire preuve d'une ouverture d'esprit aussi. Et persévérer dans les écoutes, parce que a priori à première écoute c'est un peu compliqué parfois quand on est
fan.
Ouais, et puis juger sans que ça soit négatif quoi. Le fameux c'est de la merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais,
dire ok, bon bah c'est peut-être pas mon style, ça a changé. Peut-être essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre.
Bah c'est comme ça que je me suis mis au black metal et au deathcore finalement, c'est en persévérant. En écoutant un peu
oui,
plus, en m'intéressant.
Oui, puisque t'as aussi évolué, je pense.
Et ouais, peut-être que c'est... Oui, certainement. Mais je pense que c'est en éveillant ses oreilles à plein de choses qu'on change. Mais merci, en tout cas, c'était une super découverte.
Comme d'hab, on va pouvoir mettre la playlist.
Ouais, on mettra dans la playlist sur l'Instagram, mais aussi sur radio-g.fr.
Ça sera la seule chanson. J'ai du mal ce soir.
Récente.
Bah là, on va retomber.
Là, on bat d'ailleurs, ça va être
jadis.
Ouais, c'est ça, le jadis d'avant.
Je suis sûr que Laetitia, t'as une super découverte à nous faire.
Eh ben, c'est de jadis, justement. Alors, en référence à la saison d'Halloween, moi, j'ai choisi le groupe The 69 Eyes. C'est un groupe finlandais et j'ai lu qu'ils avaient la particularité de jamais avoir changé de line-up depuis leur création au début des années 90.
Bravo, un exploit.
C'est assez rare,
en fait.
C'est
un exploit de fou, ouais.
Carrément. Il n'y a pas de leader précisément. En tout cas, c'est un groupe vraiment qui a cette chouette particularité. Alors, ils ont commencé en fait par produire des titres plutôt glam metal et on le sent dans la musique un petit peu, vous verrez. Mais rapidement, ils sont revenus à leurs premiers amours, c'est-à-dire qu'ils étaient tous fans de groupes de dark metal comme The Mission ou Sisters of Mercy.
The Mission à l'Uni Dark Fest, on a entendu parler de ce groupe non-stop.
On a vu
plein
de fans, c'était incroyable. Ouais.
Que ça, que vraiment, c'était genre le groupe filon tout le week-end, The Mission, les t-shirts, les fans, etc. Hallucinant. Et on a écouté un peu et en fin de compte, grosse légende.
Cool, mais carrément. Et du coup, en fait, ça leur a plutôt réussi de s'inspirer de ces groupes-là et ça donne un métal glam, certes, mais aussi dark, avec des influences cinématographiques assez assumées. Par exemple, ils vont faire des titres hommage à Lost Boys ou à New York 1997. Donc, le titre que j'ai choisi, en fait, c'est une chanson hommage à Brandon Lee. C'est l'acteur qui est décédé lors du tournage de The Crow. C'est arrivé en 1993. J'étais finalement pas bien vieille, mais quand ça a eu lieu, ça m'a marquée. Et je sais que c'est pas dans les scènes vraiment du film, mais j'ai vraiment du mal à regarder ce moment où Eric Draven se fait tirer dessus dans son appartement.
Tu spoiles un peu une partie de
super. En même temps, The Crow. Bon, bref, no comment. Et puis, oh mince, tu m'as tout cassé. Il m'a cassé ma chute. Bref, moi, j'aime pas Funboy dans The Crow. Et j'ai envie d'écouter ce titre hommage. Brandon Lee de 69 Nine Eyes. Mon anglais est horrible. Désolée. Voilà, c'était donc Brandon Lee de The 69 Eyes sur Radio G 101.5 FM et radio-g.fr.
C'est bien, on a notre cerveau qui est en thème Halloween, en mode un peu zombie, j'ai l'impression, mais ça marche plutôt bien.
Carrément. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est très glam, c'est goth, voilà.
Moi j'aime beaucoup.
Les ambiances goth comme ça aussi, toujours très soignées.
Ouais, en plus on va essayer de t'y emmener au fur et à mesure, toujours un peu plus, comme toi tu nous emmènes dans tes univers. Mais,
vivement qu'on t'emmène en soirée gothique, ça sera trop bien.
Ouais, c'est de la musique comme ça qui passe.
En fait, en général, dans les soirées goth, par exemple sur Paris, tu as la péniche, le Concorde, je crois.
Ouais.
Et donc tu as trois salles, trois ambiances. Tu as genre de l'Indus...
Vive l'Indus.
De la Cold Wave, New Wave, un peu old school et du métal, je crois. Mmh. Donc, t'as trois ambiances différentes, ce qui permet de pouvoir changer si t'as envie. Et puis, tu peux en même temps être sur le pont de la péniche. Et en plein Paris, juste en face du Louvre, si je me trompe pas. Et t'as une soirée goth hallucinante, enfin.
On avait fait une il y a pas longtemps, hein. Non?
Ouais, mais c'était dans les caves du mairie.
Ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus petit, un peu plus intimiste. C'était pas mal. Mais rien ne vaut que ces grosses soirées. On essaiera de se faire ça.
Carrément.
Bref, on digresse. Mais c'était très, très cool, en tout cas.
Ouais, merci.
Merci Laetitia.
Bah, du coup, on continue avec Alex.
Mais de quoi j'ai parlé ?
Mais ouais, de quoi tu vas parler ?
Alors, pour ce soir, donc, pour cette spéciale Halloween, on va plonger dans l'univers où le cinéma gothique et de genre rencontrent le métal. Okay. Et la musique alternative. Waouh. Ces films sombres où la musique devient presque un personnage à part entière. Donc là, on va plutôt se concentrer sur ce que c'était vraiment à la mode dans les années 90, milieu 90, début 2000, même un peu plus. Donc voilà, et après, on parle un peu plus loin, mais bon, là, j'étais un peu ciblé. Alors, on va commencer par The Crow en 1994.
Ah ouais.
Film culte, tragiquement marqué. Mais par quoi, tu vas me dire, Laetitia ? La mort de Brad Lundley. Donc ce film qui se passe majoritairement sous la pluie et les néons, avec la voix de The Cure et les guitares de Nine Inch Nails, qui donne vie à cette vengeance romantique et désespérée. It can't rain all the time, disait Eric Draven. Une phrase devenue symbole pour toute une génération goth. C'est vrai que de toute façon on y revient. J'adore. De toute façon The Crow, encore une fois, qui est tiré quand même d'un comics de base. Il y a eu pas mal de suites. Il y a eu même un remake il y a pas longtemps avec un Skarsgård.
Apparemment, qui n'est pas vraiment.
Visuellement, il y a certaines bonnes choses, mais en effet, on.
Non. Ouais, bof.
Ouais. On va finir à être une émission de cinéma. Ensuite vient Matrix en 99 qui apporte le côté cyber gothique et futuriste. Entre trench noir, lunettes fumées et pluie de néons verts, le film crée une ambiance visuelle sombre unique. La BO regorge de morceaux industriels et métal avec, entre autres, Deftones, Rammstein, Rob Zombie et il y a un groupe d'électro que vous connaissez aussi pas mal, Prodigy, si je me trompe pas. Et d'autres artistes qui renforcent cette atmosphère oppressante et futuriste. Un univers gothique mais résolument moderne qui a profondément marqué l'imaginaire de toute une génération alternative. Ensuite, quelques années plus tard, on a eu Blade en 1998. Je suis désolé, en fait, c'était juste avant Matrix. Bon, je me suis trompé d'un an. Mélange d'action urbaine et gothique vampirique, l'univers sombre est porté par une BO métal et industriel intense. Typo négatif, Static, Disturb, Rob Zombie et d'autres. Parfaite pour accompagner les combats du chasseur de vampires, l'atmosphère des nuits urbaines et sanglantes. J'ai grandi avec Blade, enfin, dans ma période Gogot, à fond, Blade, enfin, c'était,
Ah, bah, les deux premiers sont fous.
Hein. Oui, les deux premiers, le 3, le loulou de Paul Pomerani, qui est un vampire, à moitié vampire, avec sa gueule remplie de crocs, il y a des trucs assez marrants, mais un peu ridicules,
Ouais, c'est ça, parfois, ça peut être un peu grand guignolesque, mais.
Voilà, il doit y avoir une série Blade, je crois, là, qui doit sortir chez Marvel ou un film, je ne sais plus, mais qui a été abandonné.
Ouais, qui n'arrête pas d'être repoussé.
Ouais, et qui a été abandonné clairement, si j'ai bien compris. Donc, voilà. En même temps, si c'était pour faire la même chose qu'avec The Crow, hein, est-ce qu'on était, peut-être c'était la même chose.
Tu vois, tu prends position.
Ensuite, pour moi, on reviendra après, mais, j'en parle depuis un sacré bout de temps avec Axel. La Reine des Damnés en 2002, qui transpose le mythe du vampire dans l'univers du New Metal, qui sort du livre, qui est adapté du livre de Anne Rice. La bande originale était composée et produite par Jonathan Davis de Korn, entre autres. Rien que ça, merci monsieur. En collaboration avec Richard Gibbs. Petite particularité, Jonathan Davis devait chanter tous les titres, mais un contrat avec son label l'a empêché. Donc, sur l'album, ce sont donc Chester Bennington, David Rayman, Wayne Static, Jay Gordon, et plein d'autres, dont certains qui sont devenus problématiques, qui interprètent ces morceaux. Une BO qui est juste avec les grands noms de l'époque du metal, new metal, etc. Qui ont interprété la BO écrite par Jonathan Davis. Juste hallucinante, je pourrais en parler pendant des heures, sachant que Jonathan Davis aussi a fait une session sur MTV qui était magnifique aussi. Mais dans le film lui-même, c'est bien la voix de Jonathan Davis que l'on entend lorsque les stats chantent à l'écran. Okay. Un détail voilà qui a fait de cette BO un véritable mythe pour les fans de métal de la culture gothique. Il vieillit très mal, mais voilà, Akasha qui est joué par Alia, merci, magnifique, qui est mort tragiquement, mais qui joue de façon
sublime.
Oui, cette scène. Regardez ce film, les effets spéciaux vieillissent très très mal, mais par contre le film en lui-même, je trouve, après peut-être parce que j'ai grandi avec, mais sublime, et encore Akasha dedans, Alia est hypnotisante.
Mais oui, carrément, parce que les effets visuels sont pas fous, Mais pour je l'époque, qu'elle crève l'écran,
oui.
En fait.
Oui, oui, clairement.
Ouais, non, c'est cool.
Mais voilà, je vous demanderai de voir. Et ensuite, une trilogie. Je vais m'arrêter à trilogie parce que je crois qu'il y en a quatre. Je t'ai fait regarder les 1, 2 ou 3, je sais plus. À Axel, que j'ai fait découvrir.
Premiers,
ensuite,
ouais.
Underworld 2003.
Wow.
Avec la grande Kate Beckinsale, entre autres. La guerre glaciale entre vampires et lycans, soutenue par les sons industriels et métal de Tool.
Ouais.
Lacuna Coil. Et Perfect Circle.
Ouais.
Entre autres, voilà, et autres. Un monde bleu nuit, saturé d'armes, de cuir et de riffs lourds, comme une messe électronique dédiée à la nuit éternelle. Donc voilà, ces films ont marqué une époque où le rock sombre, le goth et le métal se mêlaient au cinéma fantastique et cybergothique pour créer un univers commun, celui de la beauté dans les ténèbres. Ces histoires de monstres, mais aussi d'amour, de solitude, de rébellion. Un monde où la musique est plus qu'un décor, c'est la voix des âmes damnées. Et bien sûr, il y a sûrement beaucoup d'autres films que j'ai dû oublier qui doivent explorer ces univers gothiques et métal. Je sais qu'il y avait aussi Blade qui avait été refait, Reborn, je crois, je sais plus le nom, qui m'a pas marqué plus que ça. Voilà, c'était qu'un aperçu. Et donc, pour choisir, pour illustrer tout ça, vous pouvez éteindre les lumières, sortir les chandelles et laisser parler les ombres. Halloween commence, continue plutôt. Maintenant, parce que pour accompagner cette descente dans la nuit, place à System, interprété par le grand, l'unique et regretté Chester Bennington, extrait de la BO mythique de la Reine des Damnées, System, par Chester Bennington.
Waouh.
Away. What more can I say?
Et voilà, et ça a été une grosse claque même pour toi Axel, ce que tu disais, et on pense quand même qu'à l'audio, on entend quand même du Jonathan Davis.
Ouais, ça a l'air d'être vrai ça.
Bah, je suis quasiment sûr.
C'est vraiment, pour moi, cette BO, elle te met, enfin, elle t'entoure, elle t'enveloppe, vraiment, c'est... hallucinant, enfin, je sais pas si...
Les mots te manquent.
Quand vous écoutez l'entièreté, de toute façon, oui. Jonathan Davis a écrit, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que c'est sûr que ça sera parfait sa voix, enfin, bref, la BO, encore une fois, n'hésitez pas à l'écouter, elle est géniale.
Elle est comme un baiser de vampire ou pas?
Vampiria.
Ouais, je sais pas, je me suis encore jamais fait bouffer le cou ou autre par un vampire ou une vampire. Vampiria! Mais,
ça va être le.
J'espère, en tout cas.
Ah bah, je sais pas.
Dans le sens inverse, du coup, ça me donne envie, ouais. Si c'est le cas. Et après, on parle pas de tous les autres films, comme Entretien avec un vampire, d'ailleurs. Et la nouvelle, d'ailleurs, donc, en parlant de La Reine des Damnés, ils vont sortir la troisième saison d'Entretien avec un vampire, où ça va partir sur ce pan-là, donc, de Lestat en Rockstar.
Ah, okay.
Et d'ailleurs, la dernière série qui a été faite d'Entretien avec un vampire, hallucinante. Et la suite, j'ai hâte. Donc, voilà. Et on va encore repartir sur le côté, Lestat en mode rockstar, et donc à voir comment eux vont l'interpréter, mais donc voilà.
Et du coup, sans transition aucune, Axel t'a préparé une petite chronique.
Il a les miquettes, hein, je peux vous
mais
le dire.
Non, il va bien.
Mais non, ça va être parfait.
C'est surtout là tous les mots que je dois bien prononcer, s'il y a peut-être des puristes qui nous écoutent, des puristes de Lovecraft. Alors j'ai préparé un petit son pour cela. Donc Cthulhu, Yog-Sothoth, Biaki, Dragon Papillon et autres vers de feu. Prenez garde, car durant ces quelques minutes, votre équilibre mental risque de prendre un sacré coup. Je m'apprête à passer les frontières de la folie et à découvrir quantité d'êtres monstrueux venus du cosmos, mais aussi du fond des océans. Howard Philip Lovecraft est l'homme derrière cet imaginaire si fascinant, et on peut ajouter qu'il a révolutionné la littérature d'horreur. C'est sûrement l'auteur fantastique le plus influent du XXe siècle. Et son univers terrifiant et singulier n'a cessé d'inspirer cinéastes, écrivains, artistes, jeux de rôle, mais aussi, on va en venir, musiciens. Et par ses ambiances horrifiques, il y a bien un genre musical qui a su s'approprier les écrits de Lovecraft, on parle évidemment du métal. On atteste le fond sonore dont le titre a pour nom Call of Cthulhu, dont le nom moindre groupe est Metallica. Et oui, le regretté Cliff Burton, premier bassiste du groupe de 1982 jusqu'à sa mort par un accident de bus en tournée en 1986, était déjà un grand lecteur de Lovecraft. Il aimait aussi la cuisine mexicaine et le LSD, mais là n'est pas le sujet de cette chronique. Alors le morceau 100% instrumental qu'on entend, Call of Cthulhu, qui clôture magnifiquement l'album Ride the Lightning de Metallica, porte une orthographe alternative de Cthulhu, car Cthulhu s'écrit simplement K-T-U-L-U, afin non pas de simplifier la prononciation du titre, mais d'éviter de nommer ce grand ancien.
Ah ok.
Car nous mortels, mortels ordinaires, ne sommes autorisés ni à épeler, ni à écrire son nom sous peine de l'invoquer. On va éviter de faire ça quand même.
Pas ce soir en tout cas.
Sans qu'on s'en rende compte, la mythologie Cthulhu est vraiment partout. Prenez par exemple la pochette live After Death de Iron Maiden, et justement je l'ai en vinyle. Est-ce que je mets le... Bon, je peux pas. Sur cette pochette, nous avons une épitaphe.
J'ai l'air vinyle.
Voilà. Nous avons une épitaphe sur la pochette où est inscrite une citation d'une de ses œuvres. Donc je vous la cite. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, mais au fil des âges peut mourir même la mort. Fin de citation. Même le célèbre groupe de stoner Orange Goblin, qui était ce week-end au festival du West Hill pour son tout dernier concert en France, car on ne les reverra plus, a aussi écrit un morceau au nom de Red Tide Rising, citant ce dieu abominable. Et certains groupes entretiennent le mystère d'une affiliation avec les écrits de Lovecraft. On peut se poser la question de la nouvelle publiée en 1919, Par-delà le mur du sommeil, avec comme titre original Beyond the Wall of Sleep, et le morceau de Black Sabbath qui se nomme Behind the Wall of Sleep. Mais c'est un piège, car Geezer expliqua plus tard que le riff de basse et les paroles lui sont venues dans un rêve. Et oui, beaucoup ont pensé que c'était une chanson d'horreur, mais en fait, ça parle juste du sommeil. Moi, je vais pas continuer à citer autant de groupes quand même, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, une question se pose. Presque 88 ans après sa mort, est-ce que Lovecraft aurait aimé l'hommage qu'il lui a rendu par ses nombreux musiciens ? Rien n'est moins sûr, car il était peu mélomane et il n'appréciait pas particulièrement la musique. Et aussi, on dit souvent qu'une œuvre échappe forcément à son créateur à un moment ou à un autre. Ce soir, je vous invite à vérifier les étoiles, si les étoiles sont propices au réveil d'un grand ancien. Et si vous voyez une montagne avec comme visage une masse de tentacules, vous n'aurez pas le temps de fuir. Je vous laisse avec le morceau Lovecraft Death du groupe Septic Flesh. Bonne écoute. Attendez, je cherche, c'est bon.
Yeah. dire après.
Et voilà, c'était Lovecraft Death de Septic Flesh. J'espère que ça vous a plu.
Mais ouais, carrément, c'était trop bien.
On était loin quand même des ambiances poisseuses qu'on peut retrouver dans les nouvelles de Lovecraft. Parce qu'il y a des groupes de Doom qui s'inspirent vraiment, qui arrivent à retransmettre cette ambiance, je trouve.
Ouais.
Là, c'était un peu plus oppressant, mais ouais, autre ambiance que j'aime bien aussi.
Ouais. Mm-hmm. Non, c'était pas mal du tout. C'était,
ouais, c'était agréable.
Et du coup, Laetitia aussi, tu as un défi, il me semble, pour Halloween.
A priori, j'ai le défi que je me suis donné la dernière, enfin que vous m'avez donné la dernière fois, était de présenter le métal, les origines du heavy metal en 2 minutes. Et bien là, je dois présenter en 2 minutes une icône du monde d'Halloween. Moi, j'ai envie de dire quasiment, et de l'horrifique. Je dois présenter Rob Zombie.
Alors attention, démarrage du générique pour calculer les 2 minutes précisément.
Ah, j'ai la pression.
C'est Jonathan Davis qui va te faire le lancement, comme d'habitude. On le retrouve justement, on l'a écouté tout à l'heure.
Yes. Robert Cummings est né en 1965 dans le Massachusetts. Il fait ses premiers pas dans la fête foraine familiale. C'est de ça, mais aussi des quantités d'heures passées devant des films d'horreur qu'il tient sa passion pour les freaks et l'horreur. Très vite, il découvre Black Sabbath, Alice Cooper, Kiss et Ministry. Mais il ne se met pas tout de suite à la musique, il entame sans les finir des études d'art et devient technicien dans l'émission de jeunesse Pee-wee's Playhouse. Il rencontre alors Sean Iselt et partage avec elle un groupe prononcé pour le métal et le macabre. Après avoir été tous deux designers d'un magazine pornographique, ils se décident en 1985 à fonder leur propre groupe nommé White Zombie, en hommage à Bela Lugosi. Il joue un punk psyché, influencé par les films d'horreur. Tiens donc. Au bout de 8 ans, ils finissent par se séparer et Robert s'appelle Rob Zombie et fonde son groupe éponyme. Son style et sa signature changent peu, mais ses albums deviennent des concepts avec intro et conclusion ponctués d'extraits de films d'horreur. Considéré comme un artiste du shock rock, ses concerts aux scénographies violentes ne sont pas pour toutes les publics et tous les yeux. Ce qui nous amène au fait que Rob Zombie est aussi réalisateur. Il débute en 1996 sur le clip de The Crow Salvation. Ah ah, vous voyez au passage que je fais du lien entre mes chroniques. Mais revenons à Rob. Il ne sera pas le réalisateur final de The Crow, mais il attendra La Maison des 1000 morts pour ça. Le film inspiré directement de Massacre à la tronçonneuse reçoit des critiques désastreuses des uns, tandis qu'il est encensé comme un chef-d'œuvre par d'autres. Et c'est ça Rob Zombie. C'est la contradiction. Il met en scène des familles violentes et dysfonctionnelles, mais il campe avec Sherry Moon Zombie, l'image d'un couple équilibré et modèle. Il est fasciné par l'horreur humaine et le sang, mais c'est un végétarien convaincu. En vrai, c'est surtout un artiste complet qui a érigé l'horreur comme sa muse ultime.
Eh ben, j'ai bien vu. Tu as tenu les 2 minutes, parfait. Si,
c'est
j'ai
très bien.
Vu.
Oui, j'ai vu. Non, c'était très bien. Oui, non, mais Rob Zombie, de toute façon, La Maison des 1000 morts, ça fait partie quand même des gros classiques qui sont cités dans les films du genre. Halloween aussi.
Il a fait oui, c'est dans
le remake d'Halloween que j'ai adoré le premier.
C'est là où je parlais des familles dysfonctionnelles.
Ouais, ouais, ouais. Alors, si vous voulez des films good feeling, vous hésitez surtout pas à ne pas regarder les Rob Zombie, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, pour l'avoir vu sur scène.
Ah oui,
jadis, c'est hallucinant, quoi. De toute façon.
Wow.
Et puis, de toute façon, depuis un moment, il y a une des photos de Rob Zombie sur ton téléphone qui a été prise par
Corentin Charbonnier.
Ouais, qui est absolument magnifique. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait en photo de concert, c'est absolument génial.
Et du coup, j'ai choisi un classique de Rob Zombie. J'ai pas été chercher très très loin parce qu'en fait, on parlait de Matrix tout à l'heure. Il y a plein de titres. Rob Zombie, ça reste un gros classique, mais moi j'ai choisi Dracula parce qu'en fait, je trouve que finalement, bizarrement, je trouve qu'il y a les good feelings. Bizarrement, voilà. Donc Dracula de Rob Zombie sur Radio G 101.5 FM. Et voilà, c'était Dragula de Rob Zombie sur Radio G. Alors ?
Mais classique, enfin, je connais bien, donc j'avoue, j'aime beaucoup son personnage.
J'ai fait dans la facilité.
Physiquement, fait. Non, pas forcément, parce que c'est quand même un personnage très particulier, un peu comme dans Jonathan Davis, qui ont des vies un peu particulières, pas forcément tout le temps faciles. Mm-hmm. Et ils ont réussi à transformer ça en de la magie, donc voilà. C'est, moi, j'aime beaucoup, sachant que.
Oui, puis ça reste quand même une icône. Je lisais, il fait même partie en fait d'un cercle assez fermé de réalisateurs. En fait, c'est les réalisateurs du cercle Splat Pack dont font aussi partie, par exemple, Alexandre Aja et Eli Roth. Il est quand même dans ce cercle de pointure du film d'horreur. Alors moi, j'ai très peur de regarder leurs films. Hein.
C'est quand même complètement du gore, parfois de l'absurde. Enfin,
oui,
c'est un style particulier, même avec Alexandre Aja. Bon, après, on va reparler que le cinéma, mais très bon réalisateur français expatrié aux États-Unis.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas su peut-être garder encore un génie chez nous. Mais voilà, des fois, on est presque même dans du grotesque, dans du. Enfin, si vous avez vu Piranha 3D d'Alexandre Aja.
Ouais.
C'est même presque ridicule. Mais voilà, c'est un peu comme les Grindhouse. Ça se veut des fois un peu sanguinolent, grotesque, etc. Mais voilà, c'est très bien, c'est à voir. Et puis, ce qui est très bien avec les films de Rob Zombie, c'est que toujours
pas
la même famille
monde,
en plus.
Évidemment.
C'est souvent la même famille qu'on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes actrices.
Mais c'est ça,
c'est
vrai.
Vraiment ça qui est cool.
Carrément.
Et puis, je voulais parler vite fait aussi dans The Crow numéro 2 avec Vincent Perez. Il y a Iggy Pop aussi qui joue dedans.
C'est vrai.
Dans Suck, un film qu'on suit un peu une bande de un groupe de musique un peu has-been qui arrive à marcher. Faut regarder pourquoi du comment, où ça parle de vampires en effet dedans, où dedans il y a encore Iggy Pop et Alice Cooper. Donc voilà, on y retrouve encore. Il y a aussi dans Tim Burton Alice Cooper qui joue dans le rôle dans le film Dark Shadow. Voilà, tout est lié, ce côté sombre, etc. Donc voilà.
Et Alex, tu vas conclure toi aussi avec ta proposition musicale pour Halloween.
Alors, je suis content parce que j'ai pouvoir placer un groupe dont je parle très souvent, que je n'ai pas pu voir parce que c'était le Covid, il devait passer au Hellfest. Et je suis très 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 déçu parce que c'est un groupe que j'écoute encore très souvent. C'est un groupe pas comme les autres, je sais pas, ça va être un peu sortir un peu du cadre de ce qu'on écoute, qui s'appelle Twin Temple. Derrière ce nom se cache un duo venu de Los Angeles, qui est formé par Alexandra et Zachary James, qui se définit fièrement comme pratiquant du satanique doo-wop. Oui, 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 vous avez bien entendu. Imaginez les harmonies sucrées et rétro des années 50, façon Elvis ou The Ronettes, mélangé avec des paroles sombres, sensuelles et théâtrales, célébrant la liberté, l'amour, le sexe et le rejet de l'hypocrisie religieuse. Twin Temple, c'est un peu comme si les fantômes du rock and roll classique avaient pactisé avec l'esthétique occulte. Entre satire, empowerment et nostalgie rock vintage, le duo prône une vision très personnelle du satanisme, une philosophie d'indépendance, d'égalité et de tolérance. Bref, un univers à la fois rétro, sulfureux et irrésistiblement classe. On écoute tout de suite Twin Temple avec leur titre, j'ai oublié de noter,
Let's Have Satanic.
Merci.
Let's have a satanic party. In the forest, it's dead of night. The full moon. Magic circle up, start to sway. All the beauty witches have been out to play. Come to the Sabbath, take a ride on my room, make it under the moon. Maybe we'll make love to you. Come to the Sabbath. Under my spell, to the Sabbath with me. Let's have a satanic orgy. Rhythm's got you dripping blood and sweat. You feel your heart pounding in your chest. Things go high. The pitch, you've never made love to, you've made love to a witch. Come to the Sabbath, take a ride.
under my spell.
C'était un peu trop là. Franchement, tu t'es enflammé.
Ah, je m'enjaille. J'aurais pas. Alors,
c'était Twin Temple, Let's Have a Satanic Orgy. Il me manquait la fin. J'aime tellement ce groupe. C'est Good ouais, Feeling. Oui. Regardez aussi, ils ont fait très peu de clips, mais les peu, il y en a surtout un qui est assez glauque. Si je ne me trompe pas, c'est un couple
ouais,
marié. Enfin, c'est sublime. Moi, ce qui adore les vieilles musiques aussi, tu vois, c'est le mélange des deux, donc ça sort un peu de ce qu'on écoute, mais ça fait du bien aussi.
Bah, ça donc, reste alternatif.
Oui. Et Axel t'a dit, il faut que je me penche un peu plus dessus, quoi.
Ouais. Ah, bah oui, carrément.
Et tu disais même que tu verrais bien ça,
dans un film de Tarantino, ouais.
C'est là où ils sont doués, c'est il et elle d'ailleurs, c'est qu'il y a tout un univers dedans.
Ah ouais, voilà. Ça donne envie de creuser.
Et quand vous regardez un peu la discographie, les noms, juste découvrez pas vous-même les noms de musique, etc. Puis vous allez voir. Et puis le premier vinyle que j'ai en vinyle.
Bah là, du coup, tu peux dire.
Vous avez une femme nue, remplie de sang, avec une tête de bouc et une cape. Enfin bref, c'est tout un programme. On est sur la fin du coup.
Quelle musique allons mettre pour cette
Je sais pas. Il nous reste combien de temps d'ailleurs qu'on lance pas trop tôt?
Ça doit être kiff-kiff la
musique. Ouais, je pense que c'est bon.
Ok. Alors, qui veut lancer pour finir?
Ah bah vas-y.
Non, vas-y.
Alors, on a tous les trois pensé à Ice Nine Kills qu'on a présenté lors de la première émission et qui est un groupe de metalcore américain qui s'inspire de la scénographie des films d'horreur. Et là, leur dernière chanson en date, qui est sortie il y a très peu de temps, s'inspire d'une figure mythique des comics. Et j'adore ce monde, puisque c'est le monde de Batman. Et donc, c'est une chanson qui s'inspire du Joker. Et je vous conseille d'aller voir le clip qui est assez
génial,
phénoménal.
Complètement.
Et on vous souhaite une très belle fin de soirée sur Radio.
Et alors, le nom de la radio
.fr.
Ouais.
Et le nom de la chanson, c'est
The Lost Track de Ice Nail Kills.
Merci.
Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci pour cette émission spéciale.
À dans 15 jours. Ciao.
Au revoir.
Merci. So join the parade, turn that frown upside down. While you're screaming in pain, I'll be laughing out loud, singing, God can't save us. God can't save us. Comical twist. There's a sign in the sky, but it doesn't mean shit. Cause Gotham's greed's been good to me. The grand will win. Here we go again. Cause God's
Dance with the devil in the pale moonlight.